Bonjour, alors dans ce café voyage, on va parler de faire des économies sur la route. Peut-être qu'aujourd'hui, vous aimeriez bien partir en voyage davantage, plus souvent, plus loin ou plus longtemps. Mais le problème, c'est les finances, le problème, c'est toujours l'argent. Alors, c'est clair que voyager, ça peut vite revenir à cher. Cependant, il y a des techniques pour voyager moins cher. Et surtout, il y a moyen de faire des économies une fois sur la route. C'est le problème que beaucoup de gens c'est quelque chose que beaucoup de gens ne pensent pas à faire. C'est-à-dire, une fois qu'on est parti, une fois qu'on est sur la route, essayer de faire des économies une fois sur place. C'est vrai que spontanément, on se dit, allez, on est en vacances, on est en voyage, on va profiter, on va se faire plaisir et on va dépenser. Le problème, c'est que quand on raisonne comme ça, quand on se dit, en voyage, je peux dépenser, eh bien forcément, ça revient à beaucoup plus cher. Forcément, on est obligé de partir moins loin ou moins longtemps ou dans destinations qui sont moins onéreuses. Et peut-être même que ça vous est arrivé, vous, de faire des compromis sur les destinations que vous vouliez voir. Les destinations que vous aviez choisies au départ étaient peut-être un petit peu trop chères. Et du coup, vous aviez remplacé ces destinations-là, les destinations qui vous intéressaient, par des destinations plus intéressantes au niveau des prix, mais qui vous intéressaient moins. Alors forcément, vous faites un compromis sur l'intérêt de votre voyage, et forcément, c'est moins intéressant pour vous. Vous prenez moins de plaisir à partir. Alors, il y a des techniques pour faire des économies en voyage. Je les ai compilées dans ce document, dans ce café voyage, on va pouvoir en parler maintenant. Je les ai triées en trois catégories, donc les économies qu'on peut faire avant de partir pendant qu'on est en France, les économies qu'on peut faire pendant le voyage, et les économies qu'on peut faire, ou en tout cas une manière de rentabiliser le voyage après le voyage au retour. On va voir ça tout de suite. Alors, avant de partir, moi ce que je vous conseille d'abord pour faire des économies, c'est d'être flexible sur vos dates de voyage. Alors ce conseil-là, il est hyper important parce que bien souvent, on peut diviser par 3, 4, 5 le prix d'un billet d'avion en étant flexible sur les dates de départ et les dates de retour. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser un comparateur de vol qui vous permet justement de voir, par exemple si vous vous dites, allez je partirai bien au mois de mars, là j'ai envie de me faire un petit voyage une semaine au mois de mars. Le site que je vais vous donner, qui s'appelle skyscanner.fr, donc pas de panique, je vous le mets à l'écrit, comme ça vous avez juste à cliquer sur le lien. Skyscanner.fr vous permet de faire une recherche sur l'ensemble du mois, le billet aller-retour le moins cher. Ça c'est génial, c'est révolutionnaire même carrément, parce que ça vous permet de dire, voilà, que je voudrais partir au Japon, j'ai 2 semaines pour partir au Japon, je sais pas quand partir, mais je voudrais partir les billets les moins chers possibles. Par exemple, je sais pas si vous pouvez poser vos congés à peu près quand vous voulez. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder les billets les moins chers. Vous dites, vous allez sur Skyscanner, vous mettez billets les moins chers sur la période donnée. Par exemple, ça peut être le mois d'avril, ça peut être sur l'année entière si vous avez envie, sur la période qui vous fait plaisir, quoi, la période sur laquelle vous pouvez poser des congés, et vous regardez les allers-retours les moins chers. Le problème, c'est que la plupart des gens, ils vont partir de samedi à samedi. Ils vont prendre un avion l'aller le samedi et le retour le samedi d'après ou 2 semaines après. Et le problème de ça, c'est que le samedi, les vols sont souvent beaucoup plus chers parce que évidemment la demande augmente. Il y a beaucoup plus de gens qui peuvent partir le samedi. Ils sont en week-end, alors forcément ils prennent l'avion le samedi. Le problème, c'est que comme il y a beaucoup de gens qui veulent partir, forcément les compagnies aériennes peuvent augmenter leurs tarifs pour ce jour-là. Et derrière, évidemment, les prix augmentent. Et forcément, si vous voulez partir ce jour-là, vous allez payer 3-4 fois le prix que vous pourriez payer en partant un autre jour. Donc l'idée, c'est de partir un jour où il y a beaucoup moins de demandes et où le rapport de force est entre vos mains, si vous voulez. Le jour où la compagnie aérienne a un petit peu de mal à remplir son avion, vous pouvez partir ce jour-là parce qu'elle va baisser ses tarifs pour remplir son avion, et de fait, vous allez pouvoir acheter un billet d'avion beaucoup moins cher. Donc moi, ce que je vous conseille pour faire ça, plutôt que de regarder jour par jour sur la plupart des sites du type Vol24 ou je sais pas, plutôt que de faire ça, allez sur skyscanner.fr. Je suis pas du tout payé par Skyscanner pour en parler. Moi, c'est le site que j'utilise, et grâce à ça, je trouve toujours des super affaires. Je vous conseille d'aller voir ça et de regarder en fonction des destinations qui vous plaisent vraiment, et de ne pas faire de compromis sur les destinations, de voir le billet le moins cher dans l'année qui vient par exemple. Si vos rêves c'est de partir en Inde et que vous voyez à chaque fois des billets d'avion à 1 500 € aller-retour, moi je peux vous garantir qu'un aller-retour en Inde, vous pouvez le payer 400-500 €, allez 600 € si vraiment vous devez faire des compromis, mais pas plus de 600-700 quoi. Et je vous garantis qu'avec ce site là, avec skyscanner.fr, en étant flexible sur les dates, c'est ça qui est important, c'est d'être flexible sur les dates, parce que si vous recherchez absolument d'un samedi à un samedi, vous allez payer cher. Par contre, si vous êtes prêt à partir un jeudi ou un mardi et revenir un lundi ou un mercredi, là vous allez payer beaucoup moins cher, probablement 3 fois, 4 fois moins cher, et vous allez faire de très très bonnes affaires, et du coup vous allez pouvoir partir où vous voulez, partir plus longtemps et partir plus loin. Voilà. Donc ça c'est la première chose, avant de partir, pensez à être flexible sur vos dates de voyage, donc négociez avec vos patrons, avec vos, voilà, au niveau du travail, au niveau professionnel, ce que vous pouvez faire pour être flexible au maximum. Deuxième chose, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des économies au sens un peu plus large, là, c'est de réduire autant que possible les mensualités que vous pouvez avoir, notamment les assurances, les crédits, les abonnements téléphoniques, tout ce qui pourrait vous bloquer, enfin tout ce qui pourrait vous faire avoir des dépenses en France inutiles, hein. Si vous comptez partir 4 mois ou 6 mois à l'étranger, et que vous devez payer votre assurance de habitation, votre assurance voiture, alors qu'elle va rester sur place, bah c'est vraiment dommage. Même l'abonnement téléphonique, c'est vraiment dommage de dépenser de l'argent. Alors c'est pas des sommes énormes, c'est sûr, mais si vous les cumulez toutes, hein, je sais pas moi, l'assurance habitation c'est peut-être une dizaine d'euros par mois, l'assurance voiture pareil, l'abonnement téléphonique c'est probablement un peu plus, une quinzaine, une vingtaine d'euros. Au final c'est des euros qui s'accumulent, et forcément c'est des sous qu'on a en moins pour se faire plaisir sur place. Donc moi ce que je vous conseille de faire à ce niveau-là, c'est si vous le pouvez, c'est résilier au maximum tout ce que vous pouvez résilier, ou alors geler certains contrats. Hein. Il y a des possibilités, je sais qu'avec Bouygues c'est possible de geler des contrats internet notamment, quand vous partez longtemps, vous pouvez dire voilà, je reste abonné chez vous, mais au lieu de payer mon abonnement à 30€ par mois, je sais plus si on paye plus rien, ou si on paye un truc du genre 2€ par mois, histoire juste de conserver la ligne, je sais plus trop. Enfin bref, dans tous les cas, il y a une économie substantielle à réaliser, et ça peut être très très intéressant si derrière vous partez en voyage, et que bah, forcément chaque euro compte une fois sur place. Donc voilà, faites la chasse à toutes les mensualités, hein, tous les abonnements dont vous n'allez pas avoir besoin parce que physiquement vous n'allez pas utiliser la source de l'abonnement. Enfin par exemple si vous n'êtes pas dans votre logement, c'est bête de payer une assurance logement ou même carrément de payer le logement. Donc le troisième conseil que je vais vous donner, c'est si vous le pouvez, rendez carrément votre logement, hein, et bloquez tous les frais qui y sont liés, c'est-à-dire EDF, internet, etc. Vous pouvez carrément aussi le sous-louer, hein, l'appartement, c'est une bonne option qui vous permet j'en parlais dans le café voyage qui concernait les bons plans logement justement. En sous-louant votre logement à des voyageurs ou en saisonniers ou à des gens qui seront là pendant la durée de votre absence, bien vous allez pouvoir compenser non seulement les dépenses de votre logement à vous, mais bien souvent aussi de votre logement, donc votre logement en France, hein, que vous avez toujours à payer, le loyer évidemment si vous n'êtes pas propriétaire. Mais en plus, souvent, vous allez faire une marge là-dessus parce que la location saisonnière est plus chère que la location au mois. Donc si vous faites de la location saisonnière, vous allez récupérer plus d'argent que ce que votre logement vous coûte. Donc vous allez pouvoir payer votre logement à l'étranger au passage. Donc c'est vraiment un bon plan, moi je vous recommande vraiment, si vous avez la possibilité de le faire, si vous avez des gens de confiance à qui vous pouvez remettre les clés et leur dire voilà, occupe-toi ou occupez-vous d'accueillir les gens, de faire un petit peu de ménage, etc. Si vous pouvez trouver quelqu'un pour vous faire ça, je vous garantis que vous allez faire des économies principalement au niveau du logement, mais voilà, à tous les niveaux, du coup ça va vous faire un petit peu de cash qui rentre, que vous allez pouvoir utiliser en voyage. Donc voilà, avant de partir, quand vous choisissez votre billet d'avion, soyez flexible autant que possible, hein. Ça c'est hyper important pour payer vos billets d'avion jusqu'à 4 fois moins cher. Réduisez ou supprimez toutes les mensualités que vous pouvez avoir en France que vous n'allez pas utiliser, c'est-à-dire les assurances, les crédits, évitez de prendre des crédits d'ailleurs, hein, parce que ça c'est des poids dans le porte-monnaie. Résilier les abonnements de type téléphone, si vous avez des abonnements téléphoniques, geler les abonnements internet, etc. etc. Et si vous pouvez, sous-louer votre logement ou rendez-le carrément si vous partez pour... si vous partez pour plus d'un an, moi je vous conseille de rendre votre logement, quoi. Un an ou plus, rendez-le, quoi. Voilà. Pendant le voyage, maintenant. Pendant le voyage, premier conseil, ce que je vous recommande, c'est de voyager lentement. En restant plus longtemps sur place, on va lisser les coûts du voyage sur plus longtemps, hein. En plus, vous aurez plus de temps pour mieux découvrir les endroits où vous allez passer. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un voyage au Japon. Si jamais vous avez le rêve de visiter le Japon, si vous restez une semaine sur place, votre séjour, il va vous coûter à peu près 1000€. Hein, je dis au hasard, mais grosso modo, vous allez avoir pour 600-700€ de billets d'avion aller-retour, et derrière, vous allez avoir 300€, on va dire une vingtaine d'euros, 30€ la nuit, plus la bouffe, quoi. Par contre, si vous restez 2 semaines, votre billet d'avion, il va toujours vous coûter 600-700€, hein, l'aller-retour. Donc, c'est pas proportionnel le prix. Une semaine, 2 semaines de voyage au Japon va pas coûter 2 fois plus cher qu'une semaine. Tout comme 3 semaines au Japon va pas coûter 3 fois plus cher qu'une semaine. Hein. Le coût, il est lissé en fait. Il y a un coût énorme au départ parce qu'il faut payer le déplacement. Et après, le coût, il est lissé parce que les seules dépenses que vous allez avoir, c'est le logement, la nourriture et les sorties. Donc plus vous allez rester longtemps au même endroit, plus vous allez réduire le coût quotidien de votre voyage. Hein. C'est mathématique. Hein. Donc voilà. Moi, je vous conseille de faire ça. Je vous conseille si vous. Alors forcément, ça s'applique surtout si vous avez un petit peu de temps devant vous, parce que si jamais vous devez absolument, si vous êtes limité par vos congés payés, par exemple, et que vous devez rentrer en France à une date précise, vous avez par exemple que 2 semaines de congés, forcément, vous allez avoir un peu de mal à appliquer ce conseil-là. Mais si vous avez plus de temps devant vous, quelques mois devant vous. Moi, je vous conseille de rester un peu plus longtemps sur place parce que, vous allez. Alors, c'est valable pour l'avion, mais c'est valable si jamais vous faites un espèce de tour. Moi, j'ai fait un tour d'Europe il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que quand je prenais le bus, à chaque fois, le bus était 20 € tout de suite. Alors, quand je reste 3 jours derrière sur place, ça revient à cher. Par contre, quand je reste 10 jours sur place, le coût du bus, il est compressé, il est amenuisé par le fait que je sois resté plus longtemps sur place derrière. Donc, voilà, moi, je vous recommande ça également. Je vous recommande de, autant que possible. Voyagez lentement, ça va lisser le coût de votre voyage sur plus longtemps. Et en plus, vous allez avoir le temps de mieux découvrir les endroits par lesquels vous allez passer. Donc c'est vraiment intéressant à tous les niveaux, si vous avez le temps, bien entendu. Voilà. Deuxième conseil, ce que je vous recommande de faire, c'est de voyager et de vivre autant que possible comme un local. En oubliant un petit peu le confort occidental et en testant la vraie vie locale, vous allez dépenser beaucoup moins. Et en plus, vous aurez l'impression de profiter davantage de votre voyage en étant en immersion totale dans le pays dans lequel vous allez, le pays que vous visitez. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand ils arrivent à l'étranger, ils se disent « Allez, je suis à l'étranger, je vais profiter, je vais vraiment me mettre à fond. » Et ce qu'ils font, c'est qu'au lieu de se dire, au lieu de tester vraiment les choses locales, typiquement locales, que ce soit au niveau du logement, au niveau de la nourriture, etc., ils vont essayer tout de suite, à tout prix, de recréer leur confort d'occidental. En allant dans des hôtels pour occidentaux, en allant manger dans des restaurants pour occidentaux ou pour touristes, et forcément derrière, le coût de tout ça est beaucoup plus élevé que si on prenait un logement, un appartement ou une coloc avec des locaux, ou en allant manger dans les restaurants où vont vraiment manger les locaux. Là, en essayant autant que possible de vivre comme un local, vous allez dépenser probablement 3 fois moins que si vous viviez comme un touriste. Moi, je l'ai fait en Espagne, c'est là vraiment la première fois que je l'ai vraiment fait. En Espagne, je me suis pris une chambre dans une coloc avec un Espagnol. Enfin, il y avait 3 personnes, mais la personne était absente. Donc on était 3, on divisait par 3 le loyer. Donc j'avais un loyer de... Alors je payais vraiment pas cher, c'était 160, je crois, 160 € par mois. J'avais une chambre sympa, voilà, c'était pas extraordinaire. Elle devait faire 12-13 mètres carrés, c'était pas le grand luxe, mais voilà, j'étais dans une coloc. On avait un grand salon, on avait un balcon, j'étais plutôt bien situé par rapport au centre-ville. Voilà, c'était plutôt chouette. Je vivais vraiment comme un local, j'allais faire mes courses au supermarché. Mes colocs espagnols, ils m'ont montré où est-ce qu'il fallait aller, où est-ce que les locaux sortaient. Du coup, moi je sortais dans les restaurants, dans les bars où les locaux sortaient et non pas où les touristes allaient. Donc forcément, les prix étaient divisés par 2. Voilà, moi ça m'a permis de dépenser beaucoup moins et surtout j'ai eu l'impression d'être en immersion vraiment. J'ai vraiment eu l'impression de vivre en Espagne quand j'étais dans cette situation-là et pas du tout d'être un espèce de touriste de passage dans un hôtel hyper cher où on a très peu en fait de connexion avec le pays qu'on traverse. Voilà. Ça c'est le troisième conseil, autant que possible, essayez de vivre comme un local, de voyager comme un local une fois que vous êtes sur place. Quatrième conseil, ce que je vous recommande, c'est de cuisiner vous-même autant que possible. D'abord parce que c'est plus sain, la nourriture que vous allez acheter directement au marché ou dans un supermarché va être généralement plus saine parce qu'elle n'est pas transformée que la nourriture, que les plats cuisinés ou dans les restos, voilà. Et puis surtout, de manière beaucoup plus pragmatique, ça revient à beaucoup moins cher. Manger au restaurant, c'est assez cher en général, surtout dans le monde occidental. Alors que s'acheter quelques petits légumes et de se faire un petit plat sympa, ça coûte tout de suite beaucoup moins cher et en plus c'est plus agréable. Vous pouvez cuisiner pour vos compagnons de voyage. Si en plus vous avez appliqué le conseil précédent et que vous êtes dans une coloc ou avec des locaux, vous pouvez cuisiner pour pas mal de gens en même temps, leur faire découvrir des petits plats français ou que eux vous fassent découvrir des plats locaux. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant et ça revient à moins cher. Donc moi je trouve ça sympa, en tout cas c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer autant que possible. Après moi je suis pas j'aime beaucoup la nourriture, mais j'ai pas forcément besoin de tester à tout prix les spécialités locales des pays que je traverse, parce que c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Donc je le fais d'autant plus facilement, le fait de cuisiner moi-même mes plats, parce que j'ai pas de scrupules si vous voulez, si jamais je goûte pas le plat typiquement, quand je suis dans les pays de l'Est, si je goûte pas absolument le plat local, je m'en fiche un peu quoi, voilà, c'est pas... J'essaie de le faire quand même quand je peux. mais si je ne le fais pas, je vais pas m'en vouloir pendant des semaines et des semaines derrière. Donc ça revient à moins cher, c'est plus sain et c'est plus intéressant. Alors le seul moment où vous pouvez vous permettre d'aller au resto, je parle en termes d'économie bien sûr, hein, je parle en termes financiers, si jamais vous avez vraiment envie d'aller au resto, allez-y, vous privez pas, ça serait dommage. Mais en termes financiers, ça peut être plus intéressant dans la plupart des cas, sauf dans les pays vraiment pauvres. Ou dans ce cas-là, souvent les petits restos sympas, les petits restos un peu typiques vont coûter très très peu cher parce que ça sera des prix pour les locaux, notamment en Asie. Hein, vous pouvez manger pour 3 fois rien dans des restaurants super sympas en Asie et ça coûtera moins cher que ça sera moins compliqué que de devoir vous faire la nourriture vous-même. Donc voilà, dans ces cas-là, vous pouvez dépenser quelques petits euros pour vous bichonner et puis vous faire plaisir dans un restaurant qui sera qui coûtera à peine plus cher que le coût de la cuisine, que le coût de l'achat de la nourriture puis de cuisiner derrière. Voilà. 1, 2, 3, quatrième point, si je compte bien. Quatrième point pour pendant le voyage. Autant que possible, essayez de vous loger gratuitement. Alors j'en ai déjà parlé dans des bons plans logement dans le café voyage précédent. Donc vous pouvez vous y reporter bien entendu si vous voulez tous les détails. Logez-vous gratuitement, vous pouvez le faire avec le couchsurfing, avec le house sitting, avec c'est les deux points principaux. Vous pouvez le faire avec le help exchange aussi, qui est en fait là vous rendez des services en échange d'un logement. Le woofing également qui peut vous permettre de vous loger gratuitement, c'est un peu le même principe. Vous allez travailler dans des fermes bio et en échange de travaux vous êtes logé, nourri, blanchi, etc. Donc ça peut être sympa de le faire également. En tout cas si vous avez un petit budget, vous allez faire des économies en allant filer des coups de main à droite à gauche. D'ailleurs, je vous encourage, si vous le pouvez, à développer ce système. C'est un peu le système D, hein, c'est-à-dire que vous allez troquer un service contre un autre. Hein. Vous pouvez le faire notamment sur les forums de couchsurfing. Vous allez souvent trouver des gens qui ont besoin d'un coup de main pour telle ou telle chose. Donc vous, si vous avez besoin d'un coup de main pour autre chose, vous pouvez monnayer en quelque sorte votre aide. Si vous avez besoin d'aide dans un autre domaine. Bref, parenthèse refermée. Donc vous pouvez vous loger gratuitement avec les outils que je vous ai donnés dans le café précédent. Vous pouvez essayer de trouver des colocs aussi. Alors là, ce sera pas gratos, mais ce sera un peu moins cher. En trouvant des colocations, vous allez vous loger comme un local. Et surtout, vous allez dépenser beaucoup moins que si vous restez à l'hôtel ou si vous restez dans un truc à touristes. Hein. Alors pour trouver des colocs, regardez les annonces sur place. Dans certains pays, c'est carrément dans la rue, sur les poteaux, en Espagne, c'est sur des poteaux, les lampadaires, genre de choses. Vous avez plein d'annonces de colocs, donc il y en a dans d'autres pays dans le même principe. Sinon, regardez sur Couchsurfing. Sinon sur Airbnb, où vous allez souvent trouver des offres en colocs. Moi, je suis resté en coloc à New York. Alors je suis pas resté très longtemps, mais j'y suis resté. C'était plutôt sympa. Ça m'a permis de faire pas mal d'économies sur le logement et du coup de rencontrer également des gens sympas comme je le disais, d'avoir des bons plans aussi, parce que quand on rencontre des locaux, on découvre leurs bons plans et on peut visiter la ville en évitant les spots touristiques et en évitant les arnaques. Voilà. Alors, se loger, évidemment, prendre une coloc, vous n'allez pas prendre une coloc pour 2 semaines. Donc ça rentre dans le cadre un petit peu du voyager lentement, qui était mon premier conseil de la partie pendant le voyage. Si vous voyagez lentement, forcément vous allez devoir vous loger sur le plus long terme. Et même si vous restez à l'hôtel, d'ailleurs vous allez pouvoir négocier des tarifs, hein, si vous voulez absolument rester à l'hôtel et que vous n'avez pas du tout envie de faire du couchsurfing ou de trouver une coloc, vous voulez vraiment être tranquille dans votre hôtel, bien vous allez pouvoir négocier sur la durée, vous allez pouvoir payer moins cher que le prix d'une chambre, hein, une vraie chambre si vous restiez 3 nuits, quoi, par exemple. Voilà, donc vous pouvez tester tout ça. Si vous avez vraiment besoin d'argent, trouvez un petit boulot sur place. Hein. Si vous avez besoin d'argent ponctuellement, voilà, à un moment donné, où il vous faut un peu plus pour payer une attraction ou payer un billet d'avion que vous n'aviez pas prévu ou je sais pas, trouvez-vous un petit boulot. Donc pour ça, reportez-vous au livre, offrez-vous une vie de voyage, hein, que vous avez probablement déjà. C'est pas très dur de trouver un petit boulot à droite à gauche. Dans la plupart des pays du monde, c'est même assez simple. Sauf dans les pays très pauvres où... dans les pays où vous ne parlez pas du tout la langue. Voilà, ça sera les deux endroits où c'est un peu plus compliqué. Dans ce cas-là, moi, ce que je recommande, c'est plutôt de bosser vers la France à distance. Il y a tout un tas de boulots possibles et imaginables. Hein. Vous pouvez faire du secrétariat à distance, de la traduction à distance, créer des sites web, faire du graphisme, faire du soutien scolaire. Enfin, il y a tout un tas de possibilités. Vraiment, reportez-vous, offrez-vous une vie de voyage. Le guide est vraiment complet. Il y a 31 techniques pour gagner sa vie sur la route pendant le voyage. Donc, si vous avez besoin d'argent pendant votre voyage, moi je vous recommande vraiment de tester, de choisir l'une de ces techniques-là et de vous y mettre à fond. Voilà. Le dernier conseil sur le voyage, ce que je vous recommande de faire pour dépenser moins, c'est de planifier votre voyage le moins possible. Alors, c'est vrai que planifier son voyage, c'est rassurant, surtout pour un long voyage. On se dit, voilà, j'ai mes billets d'avion, j'ai plus à m'occuper de tout ça. L'inconvénient, si vous planifiez vos voyages à l'avance, c'est que vous allez devoir suivre un plan de route. Vous allez être enfermé dans un plan de route, alors que parfois vos envies elles vont changer en cours de route, justement. Elles vont changer pendant votre voyage. Et comme vous allez avoir payé à l'avance pour des transports, pour des logements, pour des activités, bien souvent, vous n'allez plus avoir envie de les faire une fois le moment venu. Et c'est dommage parce que soit vous allez renoncer à faire une activité, donc vous dire « Ah ouais, mais j'avais acheté ce billet-là, en fait j'ai plus envie, ou en fait je peux plus », ben vous allez renoncer, vous allez perdre de l'argent parce que vous allez pas être remboursé. Si vous avez réservé un ticket de train par exemple, et puis qu'en fait à la dernière minute vous décidez d'aller ailleurs parce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a dit « Ah non, il faut absolument que tu ailles dans tel endroit, c'est génial », ben le ticket de train, vous allez pas pouvoir vous le faire rembourser, donc c'est de l'argent dépensé bêtement, c'est de l'argent perdu. Donc en planifiant peu, en tout cas en planifiant dans un futur très proche, vous allez économiser par rapport à si vous planifiez 3 mois, 4 mois à l'avance vos voyages, parce que forcément vos envies vont changer une fois sur place. Vous allez entendre parler de super bons plans et puis vous allez vous dire « Ah merde, j'ai pas du tout réservé ce qu'il fallait, j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait, du coup je change complètement mes plans, et puis hop, bah tant pis, bah il y a certaines sommes que je vais pas pouvoir récupérer ». Voilà, je sais que ça arrive à beaucoup de voyageurs. Moi j'ai beaucoup de retours de gens qui veulent absolument tout planifier, notamment pour les gens qui partent en tour du monde. Ils vont réserver à l'avance, 3 mois à l'avance, 4 mois à l'avance, des logements en Thaïlande, etc. Et à la dernière minute, en fait, il se trouve qu'ils ont tellement adoré le Vietnam qu'ils ont décalé leur venue en Thaïlande. Et puis forcément, ils peuvent pas se faire rembourser ou ils peuvent se faire rembourser qu'une petite partie de ce qu'ils ont payé pour réserver leur logement. Donc forcément, derrière, c'est des dépenses qui ne servent à rien en plus. Parce que quand on dépense de l'argent pour un truc qu'on n'utilise pas, je pense que c'est le pire moyen de dépenser de l'argent, quoi. Parce que autant payer un peu trop cher, payer le prix touristique pour quelque chose, mais avoir effectivement quelque chose en retour, bah voilà, on paye un peu cher, mais au final on a quelque chose. Mais alors dépenser de l'argent pour ne rien avoir du tout, c'est vraiment stupide. Donc voilà, moi je vous encourage autant que possible à planifier le moins possible, justement. Évitez de planifier trop vos voyages, ou en tout cas évitez de les planifier trop à l'avance. Il y aura des moments où vous n'allez pas avoir le choix. Il y a des fois vous serez obligé de planifier à l'avance. Certains, par exemple, pour obtenir certains visas touristiques, vous êtes obligé d'avoir un billet retour. Bah là, vous n'avez pas le choix. Vous allez être obligé de prendre votre billet retour si vous voulez pouvoir rentrer sur le territoire que vous visez. Mais dans la mesure du possible, évitez de réserver surtout des activités, en fait. Évitez surtout de réserver des activités de 2 mois à l'avance ou 1 mois à l'avance, parce que bien souvent vos envies vont changer d'ici là. Voilà. Et dernier conseil, je ne l'ai pas noté sur ma fiche, mais il me vient là pendant que je suis en train de parler de tout ça. Évitez d'acheter spontanément. De payer spontanément pour des activités ou des déplacements loin dans le temps. Si vous voulez faire des dépenses spontanées, des achats impulsifs, faites-le pour quelque chose pour une gratification immédiate en tout cas. Alors ce serait pas du tout quelque chose que je conseillerais dans le cadre de la vie de tous les jours, mais en voyage c'est beaucoup plus intéressant de faire ça parce que vraiment vous êtes en train de vous faire plaisir. Alors que si vous vous dites ah ouais je vais réserver pour aller faire un trek dans l'Himalaya dans 3 mois. Parce que vous êtes en train d'en parler avec des gens et que vous avez rencontré quelqu'un qui revient d'un trek et qui vous dit « Ouais, c'est génial, faut absolument que tu le fasses », si vous réservez dans la foulée, c'est un impulsif, il y a quelqu'un qui vous conseille de le faire, vous réservez dans la foulée pour quelque chose dans 3 mois, ça se trouve, dans 3 mois, vous n'aurez plus du tout envie de faire ce trek-là. Vous allez, si vous allez y aller à contre-cœur parce que vous dites « Ah, j'ai payé, il faut que je le fasse », ou alors, si vous y allez pas, vous avez dépensé de l'argent pour rien. Donc voilà, si jamais vous devez faire des achats impulsifs, faites-le pour de la gratification immédiate et pas de la gratification dans le futur. Et sinon, autant que possible, éviter de craquer dans ce genre de situation, parce que forcément, c'est de l'argent qui sort et qui rentre, enfin, qu'on n'a pas, comment dire, c'est de l'argent qui sort et le retour que vous avez n'équivaut pas toujours à la somme que vous avez dépensée, quoi. Voilà. Ça, c'était pendant le voyage, donc voyagez lentement. Voyagez comme un local, vivez comme un local autant que possible, cuisinez par vous-même, essayez de vous loger gratuitement ou de vous loger comme un local, c'est-à-dire par des colocs ou en tout cas passer par les circuits locaux, c'est-à-dire éviter de rester dans les trucs à touristes, quoi, concrètement. Trouvez-vous un petit boulot si vous avez besoin d'argent ponctuellement, ou trouvez une petite mission à faire pour la France ou quelque chose. Voilà, reportez-vous au livre favori du voyage, ça sera plus simple. Et surtout, planifiez le moins possible à l'avenir, essayez d'avoir une vision à très court terme de vos voyages, même si c'est intéressant d'avoir une vision à long terme pour savoir à peu près dans quelle direction on va, etc. Mais ne réservez rien à l'avance, réservez le moins possible à l'avance. Tout ce que vous n'avez pas besoin de réserver à l'avance, ne le faites pas, parce que très souvent, soit vous n'allez pas profiter à fond parce que vos envies vont changer, soit bah, vous allez perdre de l'argent parce que justement vous serez parti sur quelque chose d'autre. Voilà. Alors, on va parler maintenant du troisième. On va rentrer dans la troisième partie de ce café. À votre retour. À votre retour en France, comment vous pouvez faire pour capitaliser sur votre voyage? Moi, je vous recommande trois choses. La première chose, si vous voulez absolument capitaliser sur un voyage un petit peu original, hein, pour ça, il faut avoir fait un voyage original, ça va être d'organiser une conférence dans votre ville et de raconter votre expérience. Alors moi, c'est arrivé, moi j'habite dans une petite ville en Normandie, j'habite à Cherbourg, hein, pour les curieux, et à Cherbourg, il y a eu, en tout cas, je sais pas s'il y a encore, mais il y a eu pendant longtemps, une asso qui organisait régulièrement, je sais plus le nom, mais c'était un truc du genre expérience autour du monde ou quelque chose comme ça. Et une fois par mois, il y avait des gens comme vous et moi, donc des passionnés de voyage, qui venaient faire une petite conférence sur ou montrer un petit film, ou montrer des photos, ou voilà, raconter une expérience, partager une expérience sur les destinations où ils sont allés. Alors c'était pas toujours des destinations extrêmement originales, hein. J'ai eu quelqu'un, j'ai été voir une conférence sur la Nouvelle-Zélande, je me rappelle avoir été voir une conférence sur l'Islande également. J'ai des amis qui sont allés voir une conférence sur le Chili. Donc vous voyez, c'est pas forcément des destinations complètement loufoques auxquelles personne ne pense, du type le Bhoutan ou je sais pas, c'est pas du tout des voilà, hein, c'est pas des trucs complètement barrés, c'est assez simple. Simplement bah voilà, ça existe et si jamais vous avez besoin de rentabiliser un petit peu votre voyage au retour, vous pouvez essayer ça, vous pouvez vous rapprocher d'une asso qui organise des conférences comme ça, ou carrément organiser vous-même la vôtre, hein, en passant, en louant une salle, ou en vous arrangeant pour avoir une salle gratuitement, et puis organiser un petit truc, hein, c'est pas très compliqué. Alors forcément ça demande des compétences, ça demande d'avoir envie de parler devant des gens, ça demande d'être capable de le faire, ça demande aussi d'avoir réfléchi pendant votre voyage pour avoir quand même un angle et une sorte de thématique, donner une thématique, une couleur à votre conférence si vous voulez, pour pas simplement vous contenter de raconter « Ah j'ai fait un trek, j'ai pris une cuite avec machin, ah j'ai rencontré des étrangers, blablabla ». Non, faut que ce soit un peu plus profond que ça évidemment, mais voilà. C'est quelque chose qui est possible de le faire. Si vous le faites, je vous recommande d'y penser quand même en amont, bien sûr, hein, pas se dire « Ah attends, comment je pourrais rentabiliser maintenant que mon voyage est terminé ?» Non, pensez-y plutôt avant la fin de votre voyage, hein, pour pouvoir prendre les photos adéquates, éventuellement interviewer des gens sur place avec une petite caméra, si jamais vous pouvez, enfin. Voilà, il y a plein de choses à faire, vous pouvez tester ça, ça marche très très bien, il y a beaucoup d'assos qui le font, donc voilà, vous privez pas surtout, c'est une excellente opportunité pour rentabiliser un voyage. Vous pouvez aussi, deuxième chose, proposer des articles ou des photos à des magazines de voyage, que ce soit des magazines papier ou des magazines en ligne. Il y a beaucoup de magazines. Alors par exemple, le plus connu c'est probablement Géo, mais il y en a plein d'autres, qui achètent des photos à des photographes, à des bons photographes bien sûr, mais des photographes amateurs quand même, ou qui achètent des articles ou des textes, ou qui veulent mettre à jour certaines rubriques conseils de leur site internet, donc qui vont être prêts à monayer des conseils, des tests, des gens qui ont été sur place très récemment dans le pays, et qui seront prêts à mettre à jour tout un tas de choses, tout un tas de conseils, ou carrément à faire des récits de voyage. Si vous avez une bonne plume, n'hésitez pas à le faire également, hein. C'est une opportunité pour rentabiliser un petit peu son voyage. Ça paye pas forcément très bien, ça sera sûrement moins lucratif que la conférence par exemple, mais ça peut être intéressant, surtout si vous avez l'habitude de prendre des photos par vous-même. Voilà, si vous prenez plein de photos pendant vos voyages, vous pouvez aussi les utiliser pour les vendre à des magazines ou à des banques d'images ou à ce genre de choses. Vous pouvez aussi carrément organiser des expos et vendre vos photos, hein. C'est aussi quelque chose qui est possible, hein. Voilà, moi je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, j'ai été voir une expo sur le Rajasthan. C'est un gars que je connais un petit peu, qui est parti au Rajasthan, et en rentrant, il est photographe, hein, à la base, et en rentrant, il s'est dit, tiens, bah, je vais essayer de rentabiliser mon voyage en organisant une expo photo. Donc il a organisé l'expo photo en partenariat avec la mairie d'une petite ville à côté de chez moi, et il a vendu quelques photos comme ça, et il s'est fait un petit nom, il s'est fait petit à petit un petit nom comme ça, de photographes voyageurs qui organisent des expos régulièrement. Donc voilà, c'est une opportunité aussi. Faut savoir, il y en a plein. Là, je parle, mais il y en a des tas et des tas d'opportunités pour capitaliser sur votre voyage au retour. Vous pouvez aussi créer un site internet, par exemple, qui parle de la destination où vous êtes allé, et le rentabiliser avec un petit peu de pub ou avec un petit guide de voyage par exemple en vendant je sais pas moi un petit guide sur je sais pas vous pouvez vendre le routard et toucher des commissions sur à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient sur votre site et qui achète le routard, vous allez toucher une commission par exemple, hein. Ça peut être des trucs aussi simples que ça. C'est alors forcément créer un site internet c'est beaucoup plus compliqué, hein. J'en parle aussi dans Offrez-vous une vie de voyage, il y a des gens qui le font, moi c'est comme ça que j'ai gagné ma vie, hein. Je gagne ma vie avec mon blog, mais voilà, ça demande beaucoup de travail, il faut des compétences en création de site web, il faut des compétences en référencement, en design, et puis derrière évidemment il faut créer le contenu, parce que forcément il faut être capable d'écrire des articles, d'alimenter le site et d'avoir quelque chose à proposer derrière. Donc c'est pas forcément le plus simple, c'est pas forcément le plus rapide à faire non plus, mais c'est une opportunité également. Donc si vous êtes à l'aise avec le web et que ça vous tente, bah, n'hésitez pas, c'est une opportunité également. Voilà, il y en a d'autres, hein. Il y en a plein d'autres, hein, des idées pour capitaliser sur votre voyage. Là, je vous donne des pistes, hein, comme ça, organiser des conférences, raconter vos expériences, proposer des articles à des magazines, vendre vos photos à des banques d'images, organiser des expo-ventes de photos, justement. Vous pouvez créer des sites internet, etc., etc. Il y a des tas et des tas de possibilités pour rentabiliser votre voyage après le voyage. Hein. Donc, je vais récapituler un petit peu tout ce que j'ai dit, parce que j'ai été bavard. Vous pouvez, avant de partir, surtout soyez flexible, hein, skyscanner.fr, skyscanner.fr, c'est le meilleur comparateur de vol qui existe. Vous pouvez vous allez dénicher des super affaires comme ça. Encore une fois, c'est comme ça que je déniche toutes mes bonnes affaires. Donc je vous recommande vraiment de tester. C'est le meilleur comparateur de vol qui existe. Et encore une fois, je suis pas du tout payé pour le dire. Je vous le recommande vraiment parce que c'est celui-là que j'utilise. Et comparé aux autres, c'est 50 fois mieux, quoi. Voilà. Donc soyez flexible sur vos dates de voyage, c'est comme ça que vous allez payer le moins cher. Réduisez, voire supprimez tout ce qui va coûter, tout ce que vous allez avoir comme dépenses fixes en France, mais que vous n'allez pas utiliser, du type l'assurance voiture, les abonnements téléphoniques, les abonnements internet, etc., etc. Rendez votre logement si vous le pouvez, sinon sous-louez-le, ou si vous ne pouvez pas faire ni l'un ni l'autre, essayez d'en bloquer les frais, hein. Bloquer les frais internet, bloquer les frais EDF, etc., etc. Pendant le voyage maintenant, voyagez lentement, hein. Essayez de voyager autant que possible comme un local. Cuisinez par vous-même quand vous pouvez le faire. Logez-vous gratuitement ou en dépensant peu, c'est-à-dire couchsurfing, des amis sur place, si vous avez des amis à l'étranger, des anciens ou des gens que vous connaissez, des connaissances de connaissances. Moi j'ai fait ça à Londres, j'avais une de mes meilleures amies a une copine à elle qui habite Londres, et c'est cette amie-là c'est sa copine à elle du coup, qui m'a hébergé pendant mon séjour à Londres notamment. Voilà, donc c'est super, il suffit de regarder un petit peu autour de vous, de faire marcher votre réseau, et vous allez voir que vous connaissez des gens dans beaucoup d'endroits de cette planète, et forcément derrière, vous pouvez loger gratuitement dans beaucoup de situations, hein, même hors du couchsurfing. Voilà. Sinon, trouver des colocs, ou en tout cas, essayer de vivre comme un local, donc ça évidemment, ça marche si vous voyagez lentement, ou si vous partez longtemps. Hein. Si vous avez besoin de sous sur le moment, trouvez un petit boulot, hein. Et surtout, planifiez le moins possible vos voyages, parce que c'est une source de dépenses énorme, parce que vos envies vont changer, et vous allez probablement vous retrouver avec des choses que vous n'allez pas faire, et dont vous n'allez pas pouvoir obtenir le remboursement, ça serait dommage. Et puis au retour, capitalisez autant que possible sur votre voyage, en organisant des conférences, en vendant vos photos, en organisant des expos, en proposant des articles à des magazines, en créant des sites web sur les destinations, etc., etc., etc. Voilà, on en a terminé pour ce café, qui a encore duré longtemps, décidément. Je m'étais promis de jamais dépasser la demi-heure, et puis ça doit faire 3 cafés consécutifs, je crois, où je dépasse la demi-heure. Bon, c'est pas très grave. J'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve la semaine prochaine, hein, pour le prochain Café Voyage. D'ici là, je vous souhaite une très très bonne semaine et bon voyage si vous partez. À bientôt, salut!